À voix nue. Cette semaine, Mathieu Conquet rencontre Jean-Michel Jarre. Ce soir, peinture et mots bleus.
Jean-Michel Jarre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes musicien, mais aussi parolier, à l'origine de concerts géants qui ont été vus partout dans le monde. On a parlé cette semaine du caractère politique que pouvait prendre la musique ou les concerts à ces occasions, de votre attachement à l'histoire des techniques, et notamment aux synthétiseurs. Mais on a peu parlé de peinture. Or, c'est une passion qui tient une part très importante dans votre vie.
Oui, je dois dire que finalement, ce qui m'aura le plus influencé dans ma vie, c'est sans doute la peinture et les peintres et le cinéma aussi, plus que la musique. Sans doute parce que quand je commence, le domaine de la musique électronique, en fait, c'est en même temps un privilège, c'est d'ouvrir des portes sur des territoires vierges. Et donc, il n'y a pratiquement pas d'histoire avant moi, alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui démarre dans la musique électronique, si je puis dire, son patrimoine est plutôt lourd. Il y a 40 ans de choses plutôt importantes et lourdes qui se sont passées. Et donc, mes influences à cette époque sont vraiment liées au cinéma et à la peinture. Notamment la peinture non figurative, l'abstraction lyrique comme des gens comme Soulages, Pollock et Hartung dont je parlais précédemment dans notre conversation d'il y a quelques jours, qui ont été une très grande influence pour moi d'abord dans la propre peinture que je faisais quand j'étais ado, et puis ensuite dans la manière que j'ai eu d'intégrer le visuel dans mes concerts. J'ai toujours eu une approche visuellement, le non figuratif m'a toujours poursuivi, si je puis dire, et je pense qu'avec le recul, l'univers visuel et graphique de mes concerts sont très anti-MTV. C'est-à-dire que j'ai jamais été très intéressé par le fait d'un vidéoclip qui raconte une petite histoire sur une chanson. En général, d'ailleurs, souvent, on aime beaucoup une musique, on se fait son film et on est déçu de voir le clip qui n'a rien à voir avec l'idée qu'on avait dans sa tête par rapport aux images. Donc, c'est ce que j'ai voulu essayer de faire dans mon travail, notamment dans les scénographies. Et donc, je suis parti souvent d'univers de peintres qui me touchent, et aussi de films ou de cinéastes qui ont un univers visuel important, comme Kubrick, comme Fellini, comme d'Aronofsky, comme des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup influencé sur le plan visuel.
Est-ce que vous aviez, avant de commencer votre carrière de musicien, exposé vos peintures ? Et avec quelle technique vous travaillez ?
Non, en fait, j'ai commencé à faire de la peinture et très tôt, et je vendais mes toiles pour ça me permettait un peu d'aider ma mère aussi quand j'avais 14-15 ans. Donc, je vendais des toiles Opus un peu aux gens qui passaient. Bon,
Donc on peut trouver Jean-Michel Jarre dans
sans doute, oui, dans une brocante. Et donc, mais en fait, je n'ai jamais. J'ai jamais exposé, j'ai des toiles de cette époque chez moi. Après, j'ai continué à peindre un peu, et puis finalement, j'ai été pris dans la musique. Et au fond, il y a une logique, c'est que j'ai toujours considéré que la musique électroacoustique était très proche de la peinture, ou de la manière dont, en tout cas, je concevais les peintures. Je suis un très, très grand admirateur de Soulages, par exemple, et pour moi, quand je vois Soulages travailler, c'est très, très proche de la manière dont je travaille, dont on travaille dans la musique électronique ou électroacoustique. Je m'explique, c'est que c'est un travail de cuisinier, c'est-à-dire de extrêmement organique, extrêmement sensuel, extrêmement tactile, c'est-à-dire de finalement de mettre les mains dans le cambouis. Et au fond, dans la musique, on a passé des siècles à avoir finalement une approche très cérébrale et très abstraite de la musique. C'est-à-dire qu'on écrivait la musique pour composer, on servait d'un crayon, d'un papier. Et donc, finalement, un processus très intellectuel et très cérébral. Dans la musique électronique, d'un seul coup, on devient cuisinier puisqu'on va mélanger des waveforms, des formes d'ondes, des textures, créer des perspectives. Et donc, du coup, il y a un lien très fort, que j'ai toujours trouvé très très fort, entre la musique concrète, ce qui est assez paradoxal, et la peinture abstraite.
Vous nous recevez chez vous, à Paris, Jean-Michel Jarre. On est à deux pas du théâtre des Champs-Élysées et aussi très près d'une toile réalisée par Zhang Xiaogang. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Alors, Zhang Xiaogang fait partie de cette première génération des peintres contemporains qui ont d'abord été mal acceptés par les autorités chinoises. Et qui, en fait, la plupart du temps, met en scène des couples. Ça peut être un frère et une sœur, comme ce tableau. Ça peut être une grand-mère et un petit-fils. Ça peut être deux oncles, mais ils sont toujours reliés par un lien du sang, et c'est ce fil rouge très fin qu'on voit, et c'est toujours le lien du sang, et avec ce regard, ces regards qui sont absolument incroyables, qui sont le regard d'ailleurs des enfants chinois, qui m'ont beaucoup touché la première fois que je suis allé en Chine. C'est une des choses qui m'a le plus frappé, c'est de voir que finalement les yeux des enfants chinois étaient si vieux, c'est-à-dire qui charriaient finalement une éternité de mémoire, que la mémoire d'une culture et d'une civilisation tellement riche et tellement ancienne, finalement, était presque imprimé dans les yeux des enfants. Et chez ce peintre, c'est ce que je trouve de tout à fait fascinant, dans la manière dont il a de représenter les regards.
En juillet 83, Jean-Michel Jarre, vous aviez enregistré et mis en vente un disque unique, Musique pour supermarché. Et cette idée vous était venue en discutant avec des peintres ?
Oui, c'était au départ l'idée de faire une musique pour une exposition qui, en fait, était une exposition autour du rapport de l'art et de la distribution, de la grande distribution. Et c'était le début du CD. Et ça a été pour moi une opportunité pour essayer de tirer une sorte de signal d'alarme provocateur sur le fait de dire qu'attention, le fait de maintenant distribuer la musique dans les supermarchés, c'était la mort des disquaires et à terme, la mort de cette relation qui existait, où le disquaire était le passeur, en fait, entre notre ignorance d'auditeurs et puis des gens qui pouvaient nous guider, nous aider. Et en même temps aussi, je sentais que c'était l'aube d'un processus dangereux qui s'est malheureusement révélé exact et prémonitoire. La musique allait devenir, ou perdait d'une certaine manière, de sa valeur. Je parle pas de sa valeur commerciale, mais de sa valeur, justement, de son importance, en tout cas, ou de l'importance de la création. Et que de vendre des CD comme on vendrait des pots de yaourt ou du dentifrice me semblait assez dangereux à cette époque. Et évidemment, avec Internet, le problème s'est multiplié par un milliard ou par N, avec le fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un véritable problème très profond entre la survie des auteurs et des créateurs face aux nouvelles technologies.
Mais là, il y a un paradoxe, Jean-Michel Jarre, c'est que quand vous avez organisé avec Francis Dreyfus la vente de ce disque « Musique pour supermarché », donc c'est le disque à l'époque le plus cher qui ait jamais été vendu, je crois que c'était un peu plus de 60 000 francs, donc jamais on avait mis autant d'argent sur un seul disque, un disque unique, unique comme une toile, comme une peinture, qui ne serait pas reproduit. Vous avez dit à la radio, on était en 83, vous avez dit « piratez-moi ».
Oui, parce que c'était effectivement le ce qui semblait paradoxal, mais c'était aussi le fait de c'était le début pour moi de la crise du disque. Alors que paradoxalement, c'était la boom et l'explosion de l'industrie discographique, puisque le monde entier allait racheter en CD ce qu'ils avaient déjà acheté en vinyle. Donc c'était un coup de poker formidable pour l'industrie du disque, mais en même temps luttait contre de manière assez agressive contre des gens qui souvent n'avaient pas les moyens d'acheter de la musique ou notamment dans des pays plus pauvres. Et c'était le début d'une période où on allait mettre les pirates en prison, c'est-à-dire les auditeurs, alors qu'en fait on se trompait de bad boys, si j'ose dire. Le problème était ailleurs, et donc c'est ça que j'ai voulu montrer à cette époque.
Oui, puisque des années après, en 99, vous avez remis une pétition au Parlement européen pour alerter contre les risques du piratage. Aujourd'hui, avec le recul, comment est-ce que vous voyez cette question ? Est-ce que, par exemple, le fait d'aujourd'hui d'avoir adopté le streaming vous paraît être un progrès, ou en tout cas, les musiciens y trouvent leur compte ?
Alors, il faut d'abord cesser de penser que la technologie est notre ennemi, que les géants d'Internet sont les ennemis des créateurs. Au départ, sont des geeks et des ados qui sont des grands fans de musique, des grands fans de cinéma, mais ils ont créé des monstres d'un coup qui sont hypertrophiés. Et donc, aujourd'hui, il y a une béance en matière d'organisation ou de réglementation ou de, appelons-le comme on veut, de la manière dont on doit rétribuer les créateurs. Aujourd'hui, les industries créatives n'ont jamais rapporté autant. Plus que l'industrie automobile, plus que l'industrie du luxe. Et pourtant, les auteurs, les créateurs qui sont au centre de ces industries n'ont jamais reçu aussi peu. Donc, tout simplement, il faut inventer un modèle économique pour les créateurs. Sinon, on passera à côté du prochain Coldplay, du prochain Tarantino, du prochain Michel Houellebecq, parce que dans chaque famille, il y a un enfant qui rêve d'être photographe, d'être musicien, d'être cinéaste, et qui passera à côté de son rêve parce qu'il n'y aura pas de modèle économique adapté au créateur. Dans la société, on comprend, particulièrement en France, où on manifeste dans la rue en permanence, que tout travail mérite salaire. Et je ne vois pas pourquoi ce serait différent si on est musicien, si on est photographe, si on est journaliste, si on est écrivain. Je veux dire que c'est donc pas un problème de niche, c'est pas un problème de secteur, c'est un problème fondamental. Si on veut une société qui soit viable, il faut évidemment que sa culture le soit aussi et qu'on donne les moyens aux artistes et aux créateurs de vivre. Et il suffit simplement de s'organiser. Vous savez, je suis pas tellement pessimiste parce que, par exemple, la notion de droit d'auteur à l'époque de Beaumarchais, ça a mis un siècle pratiquement à se mettre en place. L'Internet a 20 ans, donc on est encore au balbutiement, on est au Moyen-Âge de l'ère numérique encore. Et donc je pense que tout ça va s'arranger dans les années qui viennent. Mais c'est vrai qu'on traverse, nous, aujourd'hui, et je ne parle pas pour moi, mais je parle pour les gens qui démarrent aujourd'hui, une période très très difficile pour arriver à vivre de sa création.
Je voudrais revenir sur une peinture très célèbre, c'est celle d'Oxygène de Michel Granger, qui donnera le titre de votre album en 76, et un album qui sera vendu à plus de 18 millions d'exemplaires, donc beaucoup de gens ont vu cette peinture. Elle représente la planète bleue comme une orange, hein, selon le vers de Paul Éluard, mais quand on l'appelle, c'est un crâne mort, une vanité qui apparaît en dessous. Alors vous travaillerez avec Michel Granger à plusieurs reprises, hein, pour Equinox, En attendant Cousteau en 1900, cette fameuse oreille jaune sur fond bleu, mais toujours avec en commun ce thème de la planète, le rapport à la nature. Et pourtant, vos concerts géants exigent un déploiement de techniques et d'énergie qui est assez contraire aux soucis écologiques. Alors comment on résout cette question, Jean-Michel Jarre ?
Alors, je pense qu'il faut avoir de la mesure. C'est pas parce qu'on est conscient de l'environnement qu'il faut organiser un suicide collectif, parce que le fait de respirer, on émet tous du gaz carbonique et qu'à terme, on est des très gros pollueurs de la planète. Donc il faut savoir aussi garder une certaine mesure. Je pense qu'il faut être conscient d'un certain nombre de choses, que quand j'ai commencé quand j'ai fait Oxygène, on n'était à l'époque pas si nombreux que ça à être conscient et à vouloir justement partager des convictions sur le thème de l'environnement. Depuis, même si on trie pas tous nos poubelles tous les jours, tout le monde est finalement conscient de l'importance de respecter son environnement. Presque tous. Il y a un gros blond aux États-Unis qui n'est pas tout à fait. En tout cas, pour moi, ça fait partie vraiment de mon ADN depuis toujours. Vous savez, la totalité des synthétiseurs sur une scène représente à peu près l'équivalent, je parle pas de la sono, hein, je parle des instruments, à peu près ce que consomme un fer à passer. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. La sono, les lumières, bien entendu, représentent quelque chose d'important, mais en même temps, c'est pas le fait de faire un concert en plus ou en moins qui va changer, à partir du moment où on est conscient de ce qu'on fait. J'étais un des premiers à faire un concert en utilisant les énergies renouvelables au Danemark avec les éoliennes, pour m'apercevoir que les éoliennes sont aussi très compliquées, que génèrent beaucoup d'énergie indirecte, et ce n'est pas nécessairement la solution. Donc il faut être très prudent en matière écologique. Je suis pas non plus un scientifique pointu sur le plan de l'énergie, mais pour moi ça a toujours été très important de partager un certain nombre de convictions sur le thème de l'environnement et sur le thème de l'écologie à travers ma musique. Ma musique a toujours été considérée comme étant liée à l'espace, souvent sidéral, et pour moi elle a toujours été plutôt liée à l'espace, notre espace vital.
Cette préoccupation, on la retrouve aussi dans certains textes que vous avez écrits, puisque Jean-Michel Jarre, vous êtes aussi parolier, hein, vous avez collaboré avec Christophe, Patrick Juvet. Alors on cite toujours Où sont les femmes, mais il y avait aussi Quand vient la nuit, qui était une très belle chanson, ou encore cette chanson étonnante, Papa se pique, maman se shoot.
Avec un hommage à Charles Trenet, hein. Papa pique et maman coup, faut le dire.
Mais où il était question, mon père se moque bien des vieux arbres que l'on rase, son feu de bois est au gaz, il respire tranquillement devant tous ces champs de fleurs qu'on écrase, il ne voit pas non plus le tas d'ordures qui attend. Cette prise de conscience écologique, elle est venue à quel moment chez vous, Jean-Michel Jarre ?
Bon, je pense qu'elle est venue tout simplement de mon éducation, de mon enfance, de mes grands-parents. J'ai passé beaucoup de mes vacances, non pas à la mer, mais à la montagne, avec un respect, un émerveillement de la nature et de notre pays. Et c'est ça qui m'a donné forcément, et inconsciemment, et après consciemment, le fait très tôt de se dire, il faut qu'on respecte notre environnement. Et je pense qu'il y a malheureusement un problème dont on parle pas assez, mais qui est quand même le problème fondamental, qui est quand même une démographie galopante, et c'est ça le vrai problème. Et donc ça passe par l'éducation, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé auprès de l'UNESCO. C'est-à-dire que je pense qu'on réglera le problème de l'environnement par l'éducation. Je me souviendrai toujours de cette phrase du commandant Cousteau qui me disait, tu sais, la Terre, en gros, elle est faite pour 750 millions de personnes, jusqu'à 2 milliards, on peut s'en sortir, mais après, on va être trop nombreux devant le frigo. Il y a une réflexion absolument globale qu'il faut qu'on ait, qui dépasse le cadre de savoir si on doit respecter notre environnement. À partir du moment où on produit de plus en plus pour pouvoir nourrir de plus en plus de monde et pour pouvoir faire vivre de plus en plus de monde, pour que de plus en plus de monde puisse consommer, je pense que c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir, qui est à la fois une réflexion économique, éthique, politique et stratégique. Et je pense que c'est, encore une fois, une des raisons pour lesquelles j'aime profondément l'UNESCO, qui est une des seules organisations qui réfléchit sur ces questions de manière à moyen terme, en tout cas, et à long terme.
J'aimerais revenir sur le versant parolier de votre carrière, Jean-Michel Jarre, puisque finalement, à vos débuts, entre 72 et 75, ce qui va vous faire vivre plus que la musique, ce sont vos mots, avec des textes pour Françoise Hardy, pour Gérard Lenormand, et surtout pour Christophe, Les mots bleus et Paradis perdu. C'est d'ailleurs une collaboration qui s'est poursuivie jusqu'en 2016, hein, puisqu'il y a eu Les vestiges du chaos, très beau titre que vous aviez trouvé. À quoi tient cette entente avec Christophe, et est-ce que votre façon de travailler les mots a quelque chose à voir avec votre manière de musicien ?
Alors, moi, j'ai toujours été passionné par les mots. J'ai fait de la linguistique quand je faisais mes études de lettres. J'ai toujours aimé l'écriture. Je me suis jamais considéré comme un auteur, un parolier, mais en fait, les mots m'ont toujours intéressé quand j'ai fait des textes, par leur aspect aussi phonétique. Pour moi, dans une chanson, les mots ont une importance, pas seulement sur le plan du sens, mais sur le plan phonétique, sur la manière dont les mots sonnent. Et donc, j'ai fait des textes avec des gens avec qui j'ai travaillé sur le concept global de la production. C'était le cas pour Christophe, c'était le cas pour Juvet en particulier, pour Patrick Juvet en particulier, c'était l'époque où moi je m'intéressais énormément aux albums concept anglo-saxons et qui n'existaient pas vraiment en France. C'était le fait que un album n'était pas nécessairement pour moi une suite de chansons, mais exprimait un univers complet par rapport à l'album. Et donc du coup, quand on a commencé à travailler sur l'album des Paradis perdus, des Mots bleus ou des albums de Patrick Juvet, finalement, on trouvait pas vraiment de parolier qui puisse s'inscrire là-dedans. Et donc je m'y suis collé. Par exemple, dans le cas de Christophe, aussi j'ai très vite senti ce qu'il avait de manière embryonnaire en lui, c'est-à-dire cette espèce de dandy un peu vieilli déjà, cette espèce de côté à la fois grandiose, pathétique, ce personnage de Fellini, cette espèce de rocker loser, joueur,
amateur de voiture,
tout ça existait et j'ai eu envie de le décrire de manière assez cinématographique. Et donc c'est ça qui m'a intéressé dans les textes, et pour Patrick Juvet aussi, pour qui j'ai fait beaucoup beaucoup de chansons aussi, deux albums qui ont été des grands succès. Ça a été aussi tout à fait dans un autre univers, c'est-à-dire de cette espèce de quand Polnareff est parti, il y avait une place qui était cette espèce de côté un peu provoque, un peu androgyne, un peu étrange et très techno avant la lettre, que j'avais envie d'exprimer à travers lui. Je pense que c'est une discussion qu'on a eue avec Étienne Rodagil souvent, le grand parolier de talent, grand auteur de talent, une chanson de Julien Clerc entre autres et de beaucoup d'autres, qui est finalement, on a une responsabilité en tant qu'auteur autour d'un artiste quand on travaille sur un album, c'est finalement de concevoir sa garde-robe, de concevoir son univers. Et c'est une grosse responsabilité parce qu'après, si la garde-robe est trop pesante, les artistes ont du mal, et si on se trompe, ont du mal à à s'exprimer. Et je crois que dans le cas de Christophe, on en a souvent parlé ensemble, je pense que ça a été Les Paradis Perdus et Les Mots Bleus sont des albums fondateurs comme par rapport à l'univers de ce qu'il a pu développer aussi par lui-même ensuite.
Il y a un aspect plus singulier dans votre carrière, Jean-Michel Jarre, qui vous lie au cinéma. Si plusieurs de vos musiques ont été utilisées pour différents films, je pense notamment dans 9 semaines et demie d'Adrian Lyne, où il y a une de vos musiques qui était utilisée, vous avez conçu une seule fois la bande originale d'un film. C'était pour Les Granges Brûlées. Vous étiez tout jeune, vous aviez 25 ans. C'était un film de Jean Chapeau avec Simone Signoret et Alain Delon. Le film est sorti en mai 73. Et pour le resituer, ça rappelle un peu l'affaire Dominici, un meurtre à la campagne.
On soupçonne une sorte de polar rural.
Voilà. On soupçonne le chef de famille de la propriété voisine. Il y a un climat assez oppressant, mais qui se déroule, vous le soulignez, à la campagne. Qui a pu avoir l'idée d'une musique de synthétiseur pour ce film? Et pourquoi vous ne reviendrez pas au cinéma ensuite?
C'est tout à fait par hasard, par rapport à... Je pense que c'était la monteuse qui était la sœur de Roger Vadim, qui avait entendu ma musique et qui s'est dit que ça serait intéressant d'avoir quelque chose de complètement décalé par rapport à l'action. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas été déçus, je pense, parce que la musique était totalement je sais pas comment les producteurs ont pu laisser passer ça à l'époque, parce que c'était absolument à l'inverse d'une approche traditionnelle de musique de film avec des cordes, avec l'orchestre symphonique, mais c'était très expérimental et finalement a marché assez bien dans cette espèce de contrepoint qui, moi, m'a toujours passionné dans le cinéma. C'est le contrepoint, par exemple, du vaisseau spatial en 2001, accompagné par le beau Danube bleu, par exemple, ou les longs drones de Cliff Martinez dans Trafic, par exemple. C'est-à-dire que au moment de scène d'action, il y a justement pas du tout la musique n'accompagne pas et n'illustre pas l'action, mais au contraire vient présenter une sorte de fond sonore ou de cadre qui vient en contrepoint de l'action. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Et pour répondre à votre deuxième question, en fait, la musique de film, j'ai toujours considéré que c'était le territoire du père. Mon père, Maurice Jarre, est un des plus grands compositeurs de l'histoire du cinéma. Et donc, j'ai toujours considéré que c'était plutôt son domaine et donc par une forme de pudeur, j'ai refusé d'ailleurs énormément de musique de film. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a passé, pas seulement parce que mon père n'est plus de ce monde, mais parce que aussi en même temps, leur rapport à la musique électronique au cinéma a évolué. C'est-à-dire que moi, j'avais pas envie d'aller faire de la musique avec un superviseur musical qui vous tape sur l'épaule en disant fais pas ci, mais fais plutôt ça, etc. Mais de trouver plutôt une vraie collaboration, complicité avec un réalisateur. Et j'espère que c'est quelque chose qui se fera, parce que j'aurais assez envie aujourd'hui que la musique électronique est beaucoup plus présente dans le monde sonore du cinéma. Ça m'intéresserait aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a quelques années de m'y impliquer.
Le message passera sans doute. Votre rapport au cinéma, il est aussi intime, Jean-Michel Jarre, puisque vous avez partagé la vie de trois comédiennes que tout le monde connaît. Charlotte Rampling, avec qui vous avez fondé une famille, Isabelle Adjani, puis Anne Parillo. Quel impact elles ont pu avoir sur votre carrière de musicien?
Je pense que les relations audiovisuelles, finalement, fonctionnent. C'est mieux que le cinéma muet.
Je voudrais revenir à la peinture, parce que finalement, dans votre geste de musicien, il y a aussi quelque chose du peintre. Quand, par exemple, vous travaillez sur les films de vos concerts, puisqu'en fait, la musique qu'on entend avec les films n'est pas exactement celle du concert. Il y a de la retouche, il y a un décalage. Et dans les concerts, ça n'est pas toujours la musique en direct qu'on voit. Il y a aussi la sécurité, parfois, de bandes enregistrées. Vous pouvez nous expliquer comment tout ça se croise? Il y a quelque chose de la retouche ou du remords, comme on dit en peinture?
Moi, j'ai toujours considéré que pour moi, la musique que je faisais sur scène, c'était un petit peu la bande sonore du film ou de l'histoire que le public peut se faire dans sa tête. Et c'est la raison pour laquelle, paradoxalement, les visuels, les images que je crée pour les concerts, ne racontent pas d'histoire, mais au contraire, sont plutôt des éléments qui sont instigateurs pour créer justement des réactions émotionnelles ou visuelles qui permettront aux gens de se raconter leur propre film, de se faire leur propre film. Donc du coup, quand j'ai revisité certaines musiques par rapport au film, après coup, il y a des choses que ça devient autre chose, c'est un autre animal. Et donc du coup, il a besoin d'autre chose, il a besoin d'être nourri d'une manière différente. Et finalement, ce qui fonctionne sur scène, on s'aperçoit que quand la représentation se fait sur un écran, le son doit être travaillé ou revu. Bon, j'irai pas jusqu'à... C'est Peter Gabriel qui un jour à force de faire ça, il s'est aperçu au bout du compte que en fait le concert qui sortait avait été entièrement réenregistré petit à petit, sans vraiment s'en rendre compte. C'est le remords poussé à l'extrême.
On a pu écrire Jean-Michel Jarre qu'il y avait du Berlioz, du Barnum et du Tintin en vous. Alors on comprend assez bien le côté symphonie fantastique, le grand spectacle. Et vous nous avez dit d'ailleurs en début de semaine votre passion pour les cirques quand vous étiez enfant à Lyon. Et puis le Tintin, on l'a bien compris, avec le goût du voyage et la curiosité. Quelles ont pu être pour vous les figures héroïques, Jean-Michel Jarre?
Stanley Kubrick, Fellini dans le cinéma sont pour moi des héros du XXe siècle, des gens qui pour moi ont eu un trajet héroïque aussi, c'est-à-dire les difficultés de Orson Welles dans le cinéma, c'est-à-dire des gens qui ont poussé leur fantasme à l'extrême et qui l'ont réalisé. D'une certaine manière, George Lucas aussi, qui disait que finalement, s'il avait à refaire Star Wars, il le referait probablement pas parce que il a perdu ses cheveux, sa famille, ça a tout dévoré. Et je pense que dans la figure héroïque, il y a cette notion d'extrême et du fait que une figure héroïque n'est pas heureuse, c'est pas je dirais que le but ultime du héros n'est pas le bonheur, c'est plutôt d'aller au bout du chemin. Pourquoi quand je parle de figure héroïque, finalement je me tourne vers des cinéastes ou pour moi par exemple quelqu'un comme Garcia Marquez. J'aime bien l'idée que la figure héroïque ne soit pas représentée par le chevalier Bayard ou je sais pas, un héros de guerre. Je pense qu'il y a des figures héroïques ailleurs que sur les champs de bataille. Et dans ce domaine, je pense que dans la culture, dans l'expression artistique, il y a énormément de figures héroïques. Et dans la peinture, si on prend le trajet d'un Goya, d'un Van Gogh, d'un Picasso même, on s'aperçoit que justement, il y a cette espèce d'idée qui est le fait que le héros, un peu à la manière de Don Quichotte, est à la recherche du morceau idéal, du roman idéal, du film idéal, qu'il probablement n'atteindra jamais, mais qu'il fait continuer d'essayer d'arriver à améliorer son travail quotidien.
Vous avez eu le sentiment, Jean-Michel Jarre, que votre œuvre pouvait vous dévorer?
À partir du moment où je réalise aujourd'hui que j'ai dû passer 80% de ma vie plutôt avec des machines qu'avec des humains, oui.
On en restera là pour ce soir. Merci Jean-Michel Jarre.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre de Mathieu Conquet avec Jean-Michel Jarre. À voix nue, réalisation Véronique Samouiloff, prise de son Élodie Royer, Yves Lehors, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr. Knows all the day, all of the day, but they cool,
Low, low, moon.